j'y vais chez mes parents, je vais m'asseoir. Si je ne suis plus Mario, c'est bon. Oh, tu n'es pas le seul garçon dans le monde. Mon Mario, oh, revoir. Mais ma fille a pris oui, ne peine à plat, oui, oh. Ne peine à pris oui, ne peine à mléga, oui, oh. Ne peine à pris oui, ne peine à diama, oui, oh. Ne peine à pris oui, ne peine à diama, oui, oh. Veille la diama, oui.
Il est 12h. Le journal de midi. Jean-Mélène Betty.
Bonjour à tous. Les titres de ce 12h. Le projet d'appui au développement du secteur vivrier qui vise à financer l'aménagement et la mise en valeur des parcelles rizicoles et maraîchères en vue de contribuer à l'amélioration de la productivité agricole a été lancé par le ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières récemment à Bounoufla dans le département de Saint-Fra. Sénatorial partiel dans le Guémont, le RHDP rafle les deux sièges au terme des élections des conseils municipaux et régionaux effectuées le samedi 23 décembre dernier dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale au Sénégal, les dossiers de candidature de l'opposant Ousmane Sonko ont été déposés ce mardi au Conseil constitutionnel pour la présidentielle de février 2024. Et puis, Dr Serigne Bamba Gueye, analyste politique sénégalais, sera avec Jean-Claude Comé dans le cadre de l'invité de la rédaction. Les échanges porteront sur la volonté de création d'une confédération entre les États du Sahel, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et puis, en toute fin d'édition, la revue de la presse sera assurée par Francis Cassi. Voici pour l'essentiel. Ouvrons cette édition par une page agricole. Le ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières a organisé le jeudi 21 décembre dernier à Bounoufla, dans le département de Saint-Fra, en présence du Premier ministre ivoirien, la cérémonie de lancement du projet d'appui au développement du secteur vivrier. Ce projet vise à financer l'aménagement et la mise en valeur de parcelles rizicoles et maraîchères, utilisant les nouvelles technologies agraires et contribuera à l'amélioration de la productivité agricole. Une réponse efficace aux pénuries en denrées alimentaires observées en période de sécheresse. Témoin pour Radio de la Paix, Émile Yao.
Le projet d'appui au développement du secteur vivrier, programme spécial de production vivrière, vise à renforcer les appuis du gouvernement ivoirien aux acteurs du sous-secteur du vivrier et à accélérer le rythme de croissance de la production vivrière au plan national. Kobina Kwasi Adjumani, ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières.
Il concerne les cultures maraîchères pour 5 000 hectares, le maïs pour 125 400 hectares, le riz pour 88 475 hectares et le manioc pour 70 000 hectares. Les intrants pour ces superficies ont déjà été acquis.
La cérémonie est d'ailleurs consacrée à cette phase de distribution et les heureux bénéficiaires du jour sont les populations des districts de Sassandra Maraoué, de Yamoussoukro et de la région du Gop.
Cette distribution va se faire en deux étapes, entre décembre et janvier. Pour aujourd'hui, ce sont au total 200 tonnes de kits de production maraîchère qui seront mis à la disposition de nos populations.
Le secteur vivrier est déterminant pour tous et les populations doivent œuvrer pour l'approvisionnement régulier des marchés, a souhaité le Premier ministre Robert Beugré Mambé.
Par les dons qui viennent de vous être faits, nous voulons ensemble lutter pour qu'il n'y ait plus jamais de pénurie, quelle que soit la saison.
En janvier prochain, ce sera le tour de la filière rizicole de recevoir gratuitement les kits de production. Émile Yao de Bounoufla, Radio de la Paix.
De Saint-Fra, on prend la direction du nord du pays à Korogo où, du 19 au 20 décembre dernier, un atelier de partage et de diffusion des normes nationales homologuées auprès des acteurs des filières riz, mangue et maraîcher, appuyé par le programme d'appui au développement des filières agricoles, s'y est tenu. À travers ces normes, l'accent est mis sur 5 produits alimentaires, à savoir le piment séché, le gombo séché, le riz étuvé, le riz blanchi et la mangue séchée pour les rendre plus compétitifs à l'échelle nationale et internationale. Suivons le compte rendu de Marcel Bonny sur la présentation de la norme homologuée pour la mangue séchée.
Un constat justifie cet atelier. Assoumou Karine, chef de département élaboration des normes au niveau de Côte d'Ivoire normalisation, explique.
La transformation de la mangue, notamment en mangue séchée, répond à la nécessité de réduire les pertes post-récolte. Mais en même temps, il s'avère que ça conduit à la prolifération de produits sur nos marchés pour lesquels la qualité n'est pas maîtrisée à cause justement de l'absence de référentiels sur lesquels les producteurs, les consommateurs peuvent se baser pour attester de la qualité des produits.
Ce référentiel est la norme dont en voici le contenu.
Cette norme intitulée mangue séchée spécification renferme les caractéristiques auxquelles doivent répondre le produit mangue séchée pour pouvoir être vendu sur le marché local et à l'international également.
Il y va de la compétitivité de la mangue séchée sur tous les marchés à la grande satisfaction de ses acteurs, selon Mamadou Koulibaly, premier vice-président de l'Intermangue.
En faisant la transformation de la mangue, il faut la qualité. Si aujourd'hui nous avons une certification, on pourra vendre beaucoup. Surtout, nous avons le marché local qui n'est pas encore exploré. Et les petits producteurs que nous sommes, toute la mangue qui devait rester dans les champs va se trouver transformée. Je crois que le petit producteur va gagner plus.
Le programme d'appui au développement des filières agricoles entend s'investir pour la diffusion de ces normes et accompagner la sensibilisation des acteurs sur le terrain à travers un programme de formation individualisé, a rassuré Messou Edja, coordonnateur du programme d'appui au développement des filières agricoles. Marcel Bonny, Korogo Radio de la Paix.
De Korogo, rendons-nous à Grand Bassam et parlons de ressources halieutiques. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Initiative Pêche Côtière en Afrique de l'Ouest, appuie la Côte d'Ivoire à promouvoir l'utilisation et la gestion durable de la pêche côtière à travers des approches innovantes en vue d'améliorer la gouvernance et de renforcer la chaîne de valeur des produits de la mer. Un atelier de formation s'est tenu du 21 au 23 décembre 2023 à Grand Bassam pour permettre de valider les résultats d'évaluation des performances des pêcheries de sardinelles et de thon en Côte d'Ivoire. Plus de précisions dans ce compte-rendu de Jean-Claude Mabéa.
Financée par le Fonds mondial pour l'environnement, l'initiative pêche côtière en Afrique de l'Ouest de la FAO fait la promotion de l'outil FPAT en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que c'est? Et quelle est la valeur ajoutée de cet outil dans la pêche artisanale? Kone Aboubakar est l'administrateur national du projet Initiative Pêche Côtière de la FAO.
L'outil FPAT, c'est un nouvel outil d'évaluation de la performance. Comme c'est un nouveau outil, donc il faut tester cet outil-là sur les différentes pêcheries à travers le monde. Donc la Côte d'Ivoire fait partie des premiers pays à tester ce nouvel outil d'évaluation, qui est un outil facile d'utilisation et moins coûteux par rapport aux anciens outils d'évaluation. Donc on a fait un premier atelier avec les partenaires nationaux pour présenter l'outil. Ce deuxième atelier est la continuité de ce premier atelier et il y en aura d'autres encore pour qu'en Côte d'Ivoire, on ait des experts et des usagers du secteur de la pêche gestionnaire puissent se familiariser à cet outil-là.
Pour Dr Dia Constance du Centre de recherche océanique d'Abidjan, cet outil contribuera non seulement à la prise de décision mais également à la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire.
Pour pouvoir avoir du poisson, il faut que le niveau écologique soit bien. Et il faut aussi avoir de l'argent, c'est-à-dire que pour pouvoir bien pêcher. Donc le FPAT, c'est un outil d'aide à la décision parce que les résultats qui seront produits par le FPAT orienteront les décideurs sur l'état du stock et pourront, dans ce cadre-là, prendre des décisions.
Le FPAT est donc un outil d'évaluation des performances indispensable pour la gestion durable des pêches en Afrique de l'Ouest.
Politique nationale à présent, après les élections partielles dans le Guémont et à Kouibli, l'élection sénatoriale s'est tenue samedi 23 décembre dernier à Diokoui. C'est le RHDP qui a remporté cette élection avec 62% des voix. Les échos avec Stéphane Adams, notre correspondant dans la région du Tonkpi.
Mon frère, on a combattu, il a gagné. Je te félicite. Et bon vent.
Ces propos s'expliquent par la victoire et la fin de l'élection sénatoriale partielle à Diokoué, chef de lieu de la région d'Iguemont. Le RHDP, conduit par Evarissa, remporte cette élection avec 62,37% des voix. Une victoire placée sous le sceau de la cohésion des fils et filles de la région.
J'ai pas gagné, mais c'est le Guémont qui a gagné. Je remercie mes deux jeunes frères qui n'ont pas démérité. Je pense que c'est dans l'union que nous allons construire le Guémont. Je ne peux rien faire dans le Guémont sans eux. Nous irons la main dans la main autour du ministre Redo Célestin pour que nous puissions relever les défis.
Ces échéances, selon le président de la commission électorale indépendante, Ferdinand Gauzé, se sont déroulées sans heurts.
Il est heureux que ce soit en apothéose puisque tout s'est terminé dans la paix, dans la tranquillité. Nous n'avons relevé aucun incident majeur et l'élection s'est passée dans la fraternité. Et l'élection s'est déroulée dans d'excellentes conditions.
Rappelons que le PDCI RDA, le FPI, le PPACI et 6 candidats indépendants étaient aussi de la partie pour cette échéance électorale sénatoriale. Stéphane Adams, de retour de Diokoué, Radio de la Paix.
D'un parti à un autre, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a un nouveau président en la personne de Tidiane Thiam, ancien ministre du Plan sous l'ex-président Henri Konan Bédier. Il a été élu lors du congrès extraordinaire électif qui s'est tenu vendredi dernier à Yamoussoukro. Après son élection, quels sont ses défis majeurs à relever? Des éléments de réponse avec le juriste et analyste politique Geoffroy Julien Kouaou.
Il y a deux principaux défis. D'abord, faire du PDCI-RDA un parti national qui n'est plus. En ce sens que quand on regarde les dernières consultations électorales, le PDCI a perdu totalement le Grand Nord, en perte de vitesse dans le centre du pays. Et Tidiane Thiam se doit donc de reconquérir ces deux espaces géographiques pour donner au PDCI le caractère d'un parti national. Deuxième défi, c'est la bataille présidentielle de 2025. Et pour y arriver, il nous faut maintenant construire tout un programme politique avec de nouvelles idées. Et c'est là qu'on attend surtout l'ancien patron de Crédit Suisse.
Ce sont des actions à mener dans l'avenir, mais est-ce que d'abord il ne faut pas agir sur la cohésion même du groupe pour aller en bataille extérieure?
Je pense que la question de la cohésion a été réglée par le Congrès, qui a même proposé la candidature unique de Tidiane Thiam à la Convention en qualité de seul candidat à la présidentielle de 2025. Et au sorti de ce congrès, on n'a pas entendu des points de vue divergents, on n'a pas entendu des oppositions assez fortes. Et donc, je pense que cette question de la division interne est déjà réglée. Et ce qu'il faut maintenant, c'est mettre en place un programme politique qui va certainement convaincre les Ivoiriens.
Le juriste et analyste politique Geoffroy Julien Kouaou était avec Jean-Claude Koumi. Un mot de santé dans cette édition et parlons de couverture maladie universelle. À ce jour, ce sont plus de 9 millions de personnes sur les 30 millions d'habitants qui ont été enrôlés et plusieurs réformes visant notamment à faciliter et à renforcer l'offre de soins ont été enregistrées en cette année 2023. C'est l'information donnée ce mardi 19 décembre 2023 par Aubin Tapignoléba, le directeur de cabinet du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale à l'ouverture de l'atelier technique de consolidation du programme d'investissement pour l'extension de la protection sociale dans les secteurs agricoles et informels en Côte d'Ivoire. Il est au micro de Jean-Claude Mabéa.
Les actions de sensibilisation entreprises par notre département ministériel ont permis d'enregistrer à ce jour, au titre de la couverture maladie universelle CMU, 9 514 736 personnes enrôlées. Sur 29 millions à peu près d'habitants, ce qui nous fait 32% de notre population qui est enrôlée, nous sommes au tiers rang. Et parmi ces 9 millions, nous dénombrons 341 538 agriculteurs. Pour ce qui concerne le RSDI, nous sommes à 368 515 personnes enrôlées, sur une cible d'environ 6 611 650, soit seulement 6% des travailleurs indépendants estimés. Pour la CMU spécifiquement, je voudrais rappeler qu'au cours de cette année, plusieurs réformes visant notamment à faciliter et à renforcer l'offre de soins ont été enregistrées. Elles concernent notamment la réduction du délai de carence qui est passé de 3 à 1 mois, l'élargissement du panier de soins avec l'intégration des spécialités telles que la cardiologie, la diabétologie, l'anesthésie et la réanimation, ainsi que l'élargissement du réseau des établissements sanitaires publics opérant la CMU avec l'intégration au cours de cette année de 365 établissements sanitaires publics supplémentaires qui ont porté l'ensemble des établissements conventionnels autour de 1700.
Obin Tapenyouleba, directeur de cabinet du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, était au micro de Jean-Claude Mabéa. Et puis parlons formation, 10 milliards de francs CFA vont être mobilisés pour rendre visibles les institutions de formation et d'éducation féminine, ainsi que mettre en lumière la récente réforme adoptée en Conseil des ministres depuis le 28 septembre 2023. Tel était l'objectif de la conférence de presse donnée le 19 décembre dernier à l'Institut Marie-Thérèse Houphouët-Boigny d'Adjamé. Ce montant dont l'État de Côte d'Ivoire fournit 1 milliard de francs CFA sera soutenu en grande partie par des partenaires au développement, à savoir le système des Nations Unies, dont ONU Femmes, l'UNICEF, le PNUD, l'UNFPA, ainsi que des coopérations bilatérales, dont les ambassadeurs et des ONG internationales. La directrice de la formation, Dr Honoré Ghislaine Kwame, revient sur la prochaine réforme dans ce secteur au micro de Mata Touré.
Déjà au niveau juridique institutionnel, un décret sera pris qui va travailler sur les aspects juridiques institutionnels, les aspects pédagogiques et les aspects de l'insertion professionnelle, de sorte à ce que l'autorité ministérielle puisse prendre des décrets et des arrêtés d'application de ce décret-là. L'amélioration des conditions de l'environnement même des IFEF en termes d'infrastructures, ces infrastructures existent depuis très longtemps, une réhabilitation véritable affaire et des nouvelles IFEF aussi à construire. La réforme va porter sur le contenu même de la formation au plan pédagogique. De nouvelles filières d'apprentissage sont identifiées dans le cadre de la réforme. Le contenu de la formation va être revu. La formation initiale également, c'est-à-dire la formation des formateurs, de sorte à délivrer une formation de qualité. Également au niveau du diplôme. Jusqu'à présent, c'est des attestations qui sont délivrées aux auditrices en fin de formation. La réforme prévoit la certification des auditrices. Il y aura de nouveaux diplômes qui seront délivrés quand le contenu de la formation sera mis aux normes des autres formations pour lesquelles ces diplômes sont délivrés.
À l'instant, la directrice de la formation au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Hors de nos frontières, l'opposant sénégalais emprisonné Ousmane Sonko a déposé sa candidature à la présidentielle de février 2024 au Conseil constitutionnel malgré le refus de l'administration de lui livrer tous les documents nécessaires, a indiqué ce mardi Ousseynou Li, un responsable de la cellule communication de son parti. Je confirme que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont déposé leur dossier de candidature au Conseil constitutionnel, a-t-il indiqué sans donner plus de précisions. Ousmane Sonko a pu recueillir ses parrainages nécessaires pour le dépôt de sa candidature. Bassirou Diomaye Faye, lui aussi en prison, est le plan B du parti de M. Sonko, le PASTEF, parti des patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Et puis au Nigeria, le bilan humain des violences du week-end dans l'état du Plateau a continué à de s'alourdir. Lundi soir 25 décembre, les autorités locales de cet état du centre du pays évoquaient au moins 160 morts, victimes d'attaques perpétrées dans trois circonscriptions, Mangou, Bokos et Barkin-Lédi. Des attaques perpétrées par des hommes armés contre des communautés rurales selon Amnesty International du Nigeria. Amnesty demande au président Bola Ahmed Tinubu une enquête impartiale et efficace pour comprendre ce qui a motivé ces attaques dans un état du Plateau déjà endeuillé à plusieurs reprises par le passé par des violences meurtrières entre communautés chrétiennes et musulmanes ou entre éleveurs et agriculteurs. À présent, l'invité de la rédaction, Dr Serigne Bambagay, analyste politique sénégalais, est avec Jean-Claude Koumbi. Les échanges portent sur la volonté de création d'une confédération entre les États du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso.
Docteur Seri Bamba-Gueye, bonjour.
Bonjour.
Trois pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Mali, le Niger, le Burkina Faso, envisagent à terme devenir une fédération. Mais déjà, première étape, c'est une confédération. C'est l'une des idées émises lors d'une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères de ces trois pays. Déjà, comment vous réagissez par rapport à cette volonté de ces trois pays de se mettre ensemble?
Je pense que l'idée qui a été avancée par les dirigeants des trois pays dont vous parlez, le Mali, le Burkina et le Niger, de créer une confédération s'inscrit dans le cadre d'une stratégie avancée par ces trois pays pour ne pas être isolés par rapport à deux dimensions. La première dimension, c'est des pays qui sont frappés par des sanctions de la CEDEAO. C'est des pays qui sont dirigés par des militaires. Donc, ces pays veulent véritablement montrer leur unité face à l'organisation régionale qui les sanctionne et qui les menace de sanctions. Le deuxième élément, c'est que ces pays veulent éviter un vacuum après la dislocation du G5 Sahel. Le G5 Sahel maintenant n'existe plus après le retrait du Burkina et du Niger de cette organisation. Donc, à l'évidence, le Mali, le Burkina et le Niger veulent renforcer les liens pour éviter un vide sécuritaire devant la disparition du G5 Sahel. Donc, je pense que c'est la première signification qu'il faut donner à cette volonté des trois pays d'être ensemble dans une confédération.
Alors, mais ces trois pays déjà avaient marqué le pas avec la création de ce qu'ils appellent l'Alliance des États du Sahel, une avancée en face aux autres pays de la CEDEAO, de votre avis?
Oui, je pense que la création de l'Alliance des États du Sahel était une réaction qui répondait véritablement à la lourdeur des sanctions prise par la CEDEAO contre le Niger. Donc, la création de cette alliance était une création purement conjoncturelle. Alors que la confédération qui est annoncée, à mon niveau, est quelque chose de beaucoup plus consistant, de beaucoup plus significatif au plan politique et montre dans quelle direction ces trois pays dirigés par les militaires veulent aller. À l'évidence, ces trois pays veulent créer un bloc à l'intérieur de la CEDEAO pour montrer qu'ils ont leur vision, et cette vision, même si elle n'agrée pas à l'organisation, doit être prise en considération. Je pense que c'est cette quête, en fait, d'une autonomie qui est sur la table, revendiquée par le Mali, le Burkina et le Niger à travers la création de cette confédération.
Vous parlez de vision à terme. Il est prévu donc une fédération qui réunira ces trois pays. Est-ce que pour vous, c'est réalisable une fédération?
La fédération est un projet ambitieux et lourd qui demandera beaucoup de volonté politique, premièrement, qui demandera une adhésion populaire, mais également qui devra tenir compte aussi du projet d'intégration régionale en Afrique de l'Est. In fine, nous savons que ce qui est prévu au niveau de la CEDEAO, c'est de créer un grand ensemble politique. Est-ce que cet objectif final que veut atteindre la CEDEAO peut-il véritablement s'accompagner à la création de fédérations à l'intérieur de la CEDEAO? C'est un débat qui est lancé. Donc, cette fédération, est-ce que c'est véritablement un effet d'annonce? On va voir. Est-ce que cette fédération va accélérer le processus d'intégration? On va voir. Est-ce que cette fédération pourra-t-elle résister quand ces pays vont revenir à l'ordre constitutionnel dirigé par des gouvernements élus au suffrage universel? C'est autant de questions aujourd'hui qu'on est en train de se poser et l'avenir va nous édifier.
Alors, mais une entité au sein de la CEDEAO, est-ce que cela n'est pas une menace pour cette intégration sous-régionale déjà?
Évidemment, l'avènement des régimes militaires au Mali, au Burkina et également au Niger constitue une menace pour la CEDEAO. D'autant plus que les sanctions qui ont été avancées n'ont pas pu fléchir ces régimes militaires. Donc aujourd'hui, la CEDEAO est dans une situation très difficile. Elle est menacée en fait de dislocation. Elle est fragilisée parce qu'elle ne parvient pas à s'imposer, notamment sous la crise nigérienne. Et à l'évidence également, il faudrait tenir compte des alliances géopolitiques et des alliances stratégiques dans la sous-région qui font que les acteurs extérieurs aujourd'hui sont dans des logiques qui sont souvent contraires à la logique d'intégration et également à la logique en fait d'unité au niveau de cette sous-région. Donc je pense qu'aujourd'hui, la CEDEAO doit se renouveler, tenir compte de cette nouvelle donne pour enfin essayer d'intégrer tous ces États qui sont à la marge afin que l'organisation puisse véritablement se recentrer sur des objectifs communs, mais en même temps soit capable aujourd'hui d'être l'acteur principal pour maintenir la sécurité collective en Afrique de l'Ouest.
Docteur Serigne Bamba Gueye, je vous remercie.
C'est moi.
Docteur Serigne Bamba Gueye, analyste politique sénégalais, était avec Jean-Claude Comé dans le cadre de l'invité de la rédaction. Voici qui met un point final à cette édition, mais avant le rappel des titres. Le projet d'appui au développement du secteur vivrier qui vise à financer l'aménagement et la mise en valeur des parcelles agricoles et maraîchères en vue de contribuer à l'amélioration de la productivité agricole a été lancé par le ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières récemment à Bounafla dans le département des Saint-Fra. Sénatorial partiel dans le Guémon, le RHDP rafle les 2 sièges au terme des élections des conseils municipaux et régionaux effectués le samedi 23 décembre dernier dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Et puis dans l'actualité internationale au Sénégal, les dossiers de candidature de l'opposant Ousmane Sonko ont été déposés ce mardi au Conseil constitutionnel pour la présidentielle de février 2024. Merci à tous. À présent, la revue de la presse du jour avec Francis Cassi.
Bonjour à tous. L'actualité, c'est la fête de Noël avec son lot de fortunes diverses via la fièvre des voyages, son fameux 24 qui s'est achevé avec la célébration.